Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te dire merci encore pour ta parole ce soir. Merci pour la révélation, Seigneur, que tu nous donnes dans ta parole de ce que tu vas faire, Seigneur. Pour récupérer la gestion de ta propriété. Et pour pouvoir, Seigneur, restaurer et instaurer ton royaume sur ta propriété. Père, je prie qu'au travers de ces enseignements, que chaque personne écoutera, que ce soit ici, que ce soit dans le monde entier par Internet. Je te remercie d'éclairer, d'illuminer les yeux. Pour que chacun puisse comprendre pourquoi il est là, Seigneur. En ayant la perspective de l'éternité. Merci, Père Céleste. Illumine les yeux des cœurs, je prie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous en sommes dans l'Apocalypse.
Ce
livre qui a de moins en moins de mystère, j'espère pour vous qui suivez ces enseignements. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui a fait couler le plus d'encre, c'est le livre qui a fait couler le plus d'encre de la Bible. On a écrit beaucoup sur l'Apocalypse, on a fait beaucoup de dessins sur l'Apocalypse, on a fait beaucoup de peintures, de tableaux sur l'Apocalypse. On raconte beaucoup de choses sur l'Apocalypse, d'une manière générale, même les païens l'utilisent. Bien sûr, n'importe comment.
Et
aussi, il faut le dire, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui utilisent ce livre n'importe comment. Et encore pire, beaucoup de prédicateurs qui le commentent n'importe comment. Et c'est un peu dommage. Donc nous avons vu au chapitre 1, Jean, Dieu se révèle dans la personne de Jésus glorifié, donc à Jean par une vision. Chapitre 2, nous avons vu les sept messages aux sept églises. Donc chapitre 2 et 3. Et chapitre 4, on ne voit plus l'église. Et d'un seul coup, on a une scène céleste absolument fabuleuse que Jean nous décrit, c'est-à-dire le trône de Dieu et tout ce qu'il y a autour du trône. Et à partir du chapitre 4, nous voyons que l'église effectivement n'apparaît plus. Et c'est pour ça que nous avons dû mettre des fondations. L'église ne sera plus là parce que l'église sera enlevée. Et je vous ai montré ce qu'était l'enlèvement de l'église. Donc Jésus va venir rechercher son épouse. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et tout le monde va aller au troisième ciel. Et pendant sept ans, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Et je vous rappelle que ce tribunal de Christ est un tribunal de récompense, un jury de récompense. Votre salut est gratuit, mais la position que vous aurez dans le millénium et aussi la position dans l'éternité dépendra de ce que vous aurez fait dans votre corps. La Bible est très claire là-dessus, nous l'avons étudié. Ensuite, nous avons dû étudier les 70 semaines d'année de Daniel. Et je vous rappelle qu'il reste 7 ans à exécuter dans cette prophétie dans laquelle je ne vais pas revenir. Et ces 7 ans s'appellent la tribulation. Et on voit qu'effectivement, l'Apocalypse prend une grande part pour nous expliquer ce que va être la tribulation. Et je vous rappelle que la tribulation est séparée en deux parties. La deuxième partie s'appelle la grande tribulation, qui durera 3 ans et demi, puisque les 7 ans sont coupés en deux. Et là, évidemment, toutes les prophéties qui concernent Israël vont retrouver leur sens. Parce que je vous rappelle que quand vous étudiez la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et dans les évangiles aussi, vous devez vous rappeler que l'Ancien Testament et les Évangiles ne révèlent pas le temps de l'Église, la dispensation de l'Église. C'est pour ça que vous ne trouverez ni dans l'Ancien Testament, donc dans les prophéties de l'Ancien Testament, et dans les Évangiles, la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Parce que la doctrine de l'enlèvement de l'Église, ben, ça appartient à l'Église. Nous avons des images de l'enlèvement dans l'Ancien Testament, mais nous n'avons pas la doctrine de l'enlèvement. Pourquoi ? Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas ce temps d'Église. Donc nous l'avons vu, l'Église est enlevée. Et à partir du chapitre 5, il va se passer quelque chose. Il va y avoir le déclenchement de la tribulation. Je vous rappelle que Dieu va frapper la terre, et c'est exactement ce qu'on voit. L'agneau est digne d'ouvrir les 7 sceaux, le livre avec les 7 sceaux, chapitre
5.
Et puis on voit les 6 premiers sceaux défiler. Et quand on voit le 7e sceau au chapitre 8, alors ce 7e sceau va être une multitude de jugements. Il va y avoir 7 trompettes. Et il va y avoir les 6 premières trompettes qui vont sonner, c'est des jugements de Dieu encore. Et je vous rappelle une chose, la tribulation est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du diable. La tribulation, ce n'est pas
666,
ce n'est pas la marque de la bête, c'est simplement Dieu qui va juger les hommes jusqu'à temps d'écraser les systèmes de ce monde. Et c'est pour ça que dans toute la première partie de l'Apocalypse,
où
il nous est décrit la tribulation, on voit toute la partie où Dieu envoie ses jugements. C'est ce qu'on voit au chapitre 6, au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9. Et puis, au chapitre 10, on a une parenthèse. C'est Jean qui a l'ordre de manger un petit livre. Ensuite, au chapitre 11, on s'aperçoit que Dieu, pendant la grande tribulation, va envoyer 2 serviteurs qui vont avoir une puissance absolument exceptionnelle. Parce que en parallèle où Dieu envoie ses jugements et donne aux hommes de pouvoir encore se repentir, en parallèle, le diable va essayer de réagir. Mais jusqu'au chapitre 11, vous n'avez rien de spécifique sur le diable. Vous avez la description des jugements de Dieu les uns après les autres dans la tribulation. Ensuite, nous avons vu qu'au chapitre 12, il y a une parenthèse. Là, on découvre effectivement les origines du diable, ses pouvoirs, cette fameuse bête à 10 cornes qui va apparaître un peu plus loin. Et on commence à voir un petit peu comment le diable s'en est pris à Christ lorsqu'il est né, en essayant de le détruire. Comment il va y avoir aussi une grande guerre spirituelle que le diable va perdre avec ses anges. Et puis au chapitre 12 aussi, on voit que le diable va d'abord s'acharner contre Israël, qu'il n'arriverait pas à détruire.
Et
pendant la tribulation, il va tout faire pour détruire Israël. Et au bout d'un moment, comme il voit qu'il ne réussit pas à toucher Israël, parce qu'Israël est protégé surnaturellement,
eh
bien, il va s'attaquer aux saints, c'est-à-dire à l'Église de Dieu, à ceux qui seront sauvés pendant la tribulation. Alors c'est vrai, j'ai utilisé l'Église de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire tel quel? Peut-être plus à ce moment-là.
En tout cas,
l'ensemble de ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur personnel pendant la tribulation. Alors ensuite, on a vu au chapitre 13 les réactions sataniques au jugement de Dieu. Parce que je vous rappelle que là, il y a deux fronts qui vont se lever pendant la tribulation. Ceux qui vont se donner à Christ, étant choqués par l'enlèvement en disant « ces chrétiens avaient raison ». Il va y avoir des serviteurs de Dieu qui vont se lever. Et il va y avoir l'évangile qui va être encore prêché. Mais souvent au prix de la vie des gens. Plus on va avancer dans la tribulation, plus il va y avoir de chrétiens qui vont être martyrisés et vraiment torturés pour leur foi. Donc là, chapitre 13, on voit la montée d'un empire mondial. Il y a deux bêtes qui sont décrites. Et nous avons vu les prophéties de Daniel, chapitre 7, chapitre 9. Toutes ces prophéties entre Daniel et l'Apocalypse, ça se recoupe bien évidemment. Et nous savons que la première bête, c'est qui? C'est l'Antichrist. Et il va y avoir une deuxième bête que Jean va voir. Et qui va être évidemment le faux prophète. Donc nous avons vu que l'Antichrist va prendre d'abord le pouvoir politique, on a vu comment. Il sera revêtu de puissance satanique.
En fait,
ça va être quelqu'un d'ultra possédé, il faut dire ce qui est. Comme jamais quelqu'un a été possédé sur cette terre. Et il va travailler avec l'autre bête qui est décrite dans Apocalypse 13, qui va être le faux prophète. Qui va faire beaucoup de signes et des prodiges et des miracles d'origine satanique. Et beaucoup de gens vont se faire séduire. Et après le pouvoir politique, il va prendre le pouvoir économique. Nous avons vu. Gouvernement mondial, ce que Dieu n'a jamais voulu sur la terre, et ce qui a toujours été le grand rêve du diable. Et à ce moment-là, Dieu lui permettra de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu va vouloir que les êtres humains tranchent. Soit tu es pour Dieu et tu as une dernière chance d'être sauvé. Soit tu vas t'enfoncer dans le mal jusqu'au bout. Tu vas aller prendre la marque de la bête. Et nous avons vu ce que la Bible dit à propos de ça et ce qu'elle ne dit pas. Et si tu prends la marque de la bête, c'est une alliance avec le diable qui est irrévocable. Impossible de revenir en arrière. Et ces gens qui prendront la marque de la bête iront obligatoirement en enfer, puis après dans le lac de feu et de
soufre.
Donc nous avons vu qu'il y a ces deux fronts-là qui vont être ces deux groupes de personnes. Alors ensuite, nous avons commencé à voir le chapitre 14. Et dans le chapitre 14, eh bien, on voit apparaître à nouveau les 144
000
que nous avions vus au chapitre 7. Mais là, nous avons quand même des renseignements complémentaires. Et on s'aperçoit que ces 144 000, eh bien, nous avons vu, ce sont des Juifs qui vont servir le Seigneur, donc des serviteurs de Dieu. Et apparemment, la Bible leur réserve comment dire, un tarif spécial.
Biboneka yuko uri kurabisoma ubona Imana umenga ibikiye agaciro canke agashimwe kadasanzwe aba bantu.
Dieu va vraiment les honorer.
Imana izobahesha icubahiro.
Parce qu'apparemment ils représentent un groupe très particulier.
Kuko biboneka kumenga baserukiye umugwi.
De personnes.
W'abantu.
C'est des juifs. Serviteurs de Dieu. Et apparemment, ils sont complètement irréprochables. Alors, quand j'ai fait cet enseignement-là la semaine dernière, j'ai eu quelques remarques. Et on m'a dit, mais apparemment, ce ne seront que des hommes, parce qu'on parle qu'ils ne se sont jamais souillés avec des femmes. Alors, je pense qu'il faut être prudent quand vous interprétez des textes comme ça directement. Parce que c'est vrai que ça, le texte peut penser et dire que ça sera seulement
144,000
hommes. Moi, personnellement, je pense que la Bible parle plutôt de personnes qui se sont, comment dire, comportées d'une façon absolument, je dirais qu'ils ont été des modèles pendant la tribulation. Parce que sinon, je trouve que la Bible serait trop sélective à ce moment-là. Donc, on voit que ces 144 000 tiennent une place particulière dans le cœur de Dieu. Et ils vont être récompensés pour l'éternité. Rappelez-vous, là nous sommes dans les temps où le peuple juif, c'est vraiment là où tout va se passer. Parce qu'à la fin de la tribulation, lorsque Jésus va revenir, nous le verrons, et que tous ceux qui seront inconvertis seront morts, Dieu va les mettre à mort, et bien on va rentrer dans le millénium. Et le millénium, et bien c'est Jésus qui va régner à Jérusalem et Israël va devenir la nation la plus puissante du monde. Donc, Israël, là, tient une place importante, prépondérante, c'est-à-dire de première, c'est la première place. Concernant ces prophéties de la tribulation. Alors, ensuite, il va y avoir des jugements qui sont annoncés. Et nous l'avions vu. Il y a plusieurs anges qui vont annoncer des jugements, trois anges. Et qui vont vraiment donner l'appel final. La fin de la fin est proche. Dieu va donner une dernière des dernières des dernières chances aux êtres humains qui n'auront pas encore pris la marque de la bête.
Donc
ces trois anges vont prévenir, c'est la fin de la fin. C'est tout proche, Dieu va donner des jugements finaux et c'est terminé pour les hommes qui ne l'auront pas servi. Mais c'est étonnant parce que dans l'Apocalypse, on voit régulièrement dans la description de la tribulation, on voit vraiment Dieu qui donne des chances à chaque fois encore.
Vous
voyez, c'est comme si il nettoyait quelque chose. Il y a une partie qui est foutue. Parce que c'est des gens qui ont déjà fait alliance avec l'Antichrist et la marque de la bête, donc compris la marque de la bête. Et Dieu remontre sa puissance encore. Et
il
rebrasse l'humanité et la remue encore.
Alors,
en disant, vous pouvez encore vous repentir. Mais ne prenez pas la marque de la bête. Et Dieu va après encore nettoyer. Et Dieu à chaque fois dit encore une fois, même s'il y a un petit reste, jusqu'au dernier, je veux être sûr que vous ayez fait votre choix. Rappelez-vous, c'est un temps où la terre n'aura jamais connu une telle tribulation. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Ça va être vraiment la folie totale. Beaucoup de gens ne seront plus ou donner la tête, entre guillemets, c'est-à-dire vont devenir à moitié fous avec toutes ces histoires. Vont se comporter n'importe comment. Vous voyez, quand par exemple il y a un incident, les gens déjà se comportent. On a eu un feu récemment au marché. Vous avez vu comment les gens étaient là tout autour du marché, ils étaient comme fous. Tout le monde commence à en parler, tout le monde, vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde,
où
que ce soit dans ce monde, d'un seul coup les gens ne savent plus où ils sont. Les inconvertis sont comme ça. Et là, dans la tribulation, ça va être ça quasiment pendant 7 ans, mais de plus en plus. Et Dieu donne vraiment les dernières des dernières des dernières chances. Là, dans cet avertissement, c'est clair. C'est fini. Soit tu ne marches pas avec la bête, tu ne prends pas sa marque. Soit tu la prends, c'est fini pour toi. Mais
tu
as encore un choix de pouvoir venir à boire. Il y a les deux camps qui sont là. Maintenant, nous allons voir la troisième partie de ce chapitre 14 qui va être la suite de tout cela.
Vous
voyez, le chapitre 14 est divisé en trois parties.
C'est les 144
000, les serviteurs de Dieu israélites exemplaires pendant la tribulation. Au milieu des pires persécutions. Des gens complètement engagés avec Dieu qui sont prêts à mourir s'il le faut. Ensuite, les trois anges qui disent « Attention, 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 c'est l'appel final. » Vous savez, c'est quand vous êtes dans les aéroports. Il y a des moments où on dit, on appelle tous les voyageurs, blablabla, à venir à la porte numéro
41.
On appelle une fois, on appelle deux fois. Et puis à un moment, on dit, appel final. Et là, c'est juste un avion qu'on peut louper éventuellement. Et si
tu
n'es pas là pour l'appel final, c'est fini. Bye bye, l'avion partira. Tu
ne
peux pas arriver 10 minutes, un quart d'heure plus tard en disant, je veux monter dans l'avion. Et tu regardes, il est là sur la piste. Et tu vas dire à l'hôtesse, tu vas dire non, moi je vais courir après l'avion, je vais monter dedans pendant qu'il est en train de décoller. Non, il est parti, c'est fini. Il est en train de partir, c'est fini, c'est trop tard. Vous voyez, c'est comme les gens qui ne veulent pas accepter Jésus avant l'enlèvement. Le moment même où il y aura l'enlèvement, c'est fini, c'est trop tard. C'est terminé. Si quelqu'un n'a pas Jésus dans son cœur, c'est fini. Il va subir la tribulation.
Savez,
il y en a plus d'un qui va se mordre les doigts ce jour-là. Alors, après, on va nous parler de la grande moisson, la dernière grande moisson de l'humanité. Versets
14
à 20. Ce soir, c'est ce que nous allons voir, la moisson. On va parler de cette expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament. Il est dit, je regardais et voici qu'il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme, c'est-à-dire qui ressemblait à un homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 16. « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Verset 17. « Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. » Et un autre ange, qui avait l'autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Verset 20, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Alors ici, nous avons la description de la dernière grande moisson de l'humanité. Jean va recevoir donc cette vision sur quatre anges. Il va voir quatre anges. Alors, en fait, ils vont s'occuper de vendanger les hommes. Alors, je ne sais pas trop comment c'est traduit en Kirundi, parce que le verbe vendanger en français signifie quelque chose de spécial pour ce qu'on appelle les vignes. Les vignes et le raisin, c'est près du jus. Donc c'est très, je dirais, c'est utilisé pour ces plantes-là qui s'appellent des vignes. Jésus donne un exemple, hein, vous vous rappelez dans Jean chapitre
15.
Jésus dit que son père est le vigneron. Et puis que lui, c'est le cep et nous sommes les sarments, les branches. Il y a plusieurs images de la vigne. Je sais qu'ici, en Afrique centrale, nous n'avons pas de vigne parce qu'il fait trop chaud.
Mais
c'est très souvent... la Bible va prendre des images de la Méditerranée, autour de la Méditerranée, où la vigne pousse très bien. Donc ici, c'est vraiment le terme exact qui est utilisé, mais ce n'est pas grave, on va l'expliquer d'une autre façon. Mais on voit ces quatre anges qui sont là. Et ils vont s'occuper justement de moissonner, de vendanger ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Et là, je vais vous introduire des notions dont vous avez certainement entendu parler, mais là, vous allez mieux comprendre et avoir des images par rapport à
ça.
Parce que ça va être ce qu'on appelle la fin du monde. Et en fait, la fin du monde, c'est-à-dire la fin des systèmes de ce monde. Nous allons particulièrement expliquer c'était ce terme que vous allez retrouver plusieurs fois dans la Bible. Qui s'appelle la fin du monde. Vous savez, souvent sur Internet ou un peu partout aux informations, on va dire, tiens, il y a un tel qui a dit que c'est la fin du monde. Alors, quand on a cette expression, la fin du monde, on peut se dire, tout va exploser et il ne va plus rien avoir. Souvent, c'est ce que les inconvertis nous disent, dans le sens, la fin du monde, c'est-à-dire, la fin pour eux, c'est la fin de la terre. Mais ça n'a rien à voir avec l'expression biblique. La vraie expression biblique qu'on va utiliser, qu'on va voir dans l'écriture, elle veut dire littéralement la fin des âges, c'est-à-dire la fin, comme dit le mot grec aion, c'est-à-dire la fin des systèmes de ce monde tel que nous les voyons là. Donc vous avez compris que c'est la fin de quoi? La fin du gestionnaire, du mauvais gestionnaire. La fin de la gestion du diable sur la propriété du Seigneur. Et nous allons découvrir cette expression. Mais d'abord, nous allons y aller verset par verset. D'abord, il est parlé au verset 14 de quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme et qui est environné d'une nuée. La nuée, je vous rappelle que c'est la gloire de Dieu.
ngombona igicu cera no kuri kino gicu ukivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu.
Qui a une couronne sur sa tête et qui tient une faucille pour moissonner.
Ngo yambaye igitsibo cizahabu mu mutwe kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko.
Et en fait, quand on regarde bien, parce qu'au début on pourrait se dire, mais ça doit être Jésus, ça.
Non, ce n'est
pas Jésus.
Pourquoi?
Parce qu'il y a un autre ange qui va lui donner un ordre.
Comment
est-ce qu'un ange pourrait donner un ordre à Jésus? Donc c'est très clair ici que là c'est un ange qui a l'air très puissant d'ailleurs, qui est revêtu, qui ressemble aux autres anges, parce que je vous rappelle que les anges et les hommes se ressemblent. Et à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a vu un ange dans l'écriture, il dit j'ai vu comme un homme, l'homme me parlait. Ézéchiel par exemple. Et je vous rappelle que les anges et les archanges n'ont pas d'ailes. Seulement les séraphins et les chérubins qui restent autour du trône de Dieu ont des ailes. Voilà.
Okay.
Alors là, on parle de cet ange donc, qui avait une faucille tranchante à la main. Et un autre ange, verset 15, sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, donc à l'ange, vous voyez bien que c'était un ange, verset
14.
Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Alors, il y a plusieurs paraboles dont Jésus a parlé à propos justement de cette moisson et aussi de la fin du monde. Et nous allons lire plusieurs textes pour mieux comprendre cet aspect de moissonner. D'abord, la Bible nous dit clairement dans Luc chapitre 10, au début du chapitre, la Bible va être très claire à propos justement de cette moisson. Au verset 2, Jésus va parler à des disciples et il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Donc
ici, bien sûr, nous avons compris que le maître de la moisson, c'est qui? C'est Jésus.
Yes.
Il va y avoir des ouvriers dans la moisson. La moisson, c'est très clair. Ce sont, en général, tu plantes quelque chose, tu plantes des graines. Elles poussent. Et au bout d'un moment, elles arrivent à maturité. Elles produisent du grain. Et c'est là où tu dois récupérer au temps opportun la récolte. Et Dieu va comparer l'humanité à un immense champ où il va y avoir des semences qui sont semées, des plantes qui vont pousser, et il y a des bonnes plantes et il y a des mauvaises plantes. Regardons ensemble une parabole que Jésus va donner qui va nous illustrer cela. C'est dans Matthieu chapitre 13. On a souvent Matthieu 13, on pense tout de suite à la parabole du semeur, mais ce n'est pas celle-là. C'est vrai que Jésus va donner 7 paraboles dans Matthieu 13. Et la parabole du semeur, c'est celle qu'on connaît le mieux. Avec les 4 types de terre, et ça représente des gens qui entendent l'évangile, nous le savons. Et leur réaction, les 4 différentes cœur que l'on peut trouver dans la vie quand nous prêchons l'évangile.
Nous kuvuga ngo ubwoko bw'imitima bushika bune dushobora kubona mu buzima kusanga mu buzima iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza.
Mais là, regardons ensemble, on va regarder du verset 24 à 30 d'abord.
Reka duhere ku murongo wa 24 gushika kuri 30.
Il dit, il leur proposa une autre parabole. C'est la deuxième parabole de Matthieu 13 sur le 7. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, regardez bien ce qu'il est dit ici, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors ici, Jésus va donner cette parabole. Et après, il va en donner une autre directement, qui est la parabole du grain de moutarde. Donc verset 31 et 32. Ce petit grain, le royaume de Dieu est semblable à un petit grain de moutarde, et d'un seul coup, ce grain devient un grand arbre. Puis il va expliquer la parabole du levain. Où on va mettre juste un petit peu de produit qu'on appelle du levain, un truc chimique, et d'un seul coup, la farine va lever, ça va faire quelque chose de beaucoup plus gros qu'au départ. Donc de quelque chose qui est petit, ça devient grand. Et au verset 36, jusqu'au verset 43, alors Jésus va faire quelque chose à la demande de ses disciples. La première parabole du royaume, c'est intéressant, on pourrait passer pas mal de temps sur ces sept paraboles, mais ce n'est pas mon sujet. Donc de ces sept paraboles, mais
ce
n'est pas mon sujet ce soir.
Mais
ce sont les paraboles du royaume. Rappelez-vous que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Et l'Apocalypse, c'est les prophéties sur la restauration et l'instauration du royaume de Dieu. N'oubliez jamais cela. Quand vous voyez royaume de Dieu, pensez toujours à tout ce qui va se passer, d'où ça vient et jusqu'où on va aller. C'est ça, il faut bien le comprendre. Alors, la parabole de l'ivraie et du bon grain, ils ne l'ont pas comprise. Jésus avait déjà expliqué la première parabole. Mais la deuxième, il y va directement et il n'explique pas. C'est le bon grain et l'ivraie. La troisième et la quatrième, il va pas les expliquer parce que c'est facile à comprendre. Mais la deuxième parabole sur le bon grain et l'ivraie, comme les disciples voient que Jésus continue à leur dire des paraboles, là, ils vont poser des questions. Et il renvoya la foule, donc, et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Verset 38, le champ, c'est le monde, c'est-à-dire l'humanité. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Et après, il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui appartiennent au diable. Verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, tiens donc, je vous ai dit qu'on reviendrait sur cette expression. La moisson, c'est quoi ? La fin du monde. Ah, ok. Rappelez-vous, nous sommes en train de voir au chapitre 14, la dernière partie, là où l'ange a une faucille et on l'envoie pour moissonner.
Wibuke icyo turiko turavuga ni gice cya gatatu cya gice cya 14 cy'ibyahishuro Yohana aho umumarayika afise umuhoro ukarishe aje kwimbura.
Alors regardez bien, la moisson, c'est quoi? La fin du monde. Rappelez-vous, la fin du monde, c'est la fin des systèmes de ce monde. La fin ou la fin en fait du gestionnaire. Le gestionnaire va être mis, le mauvais gestionnaire qui est le diable, qui a eu le contrat de gestion sur la propriété de Dieu, il va être mis hors d'état de nuire.
Ngo igenya canke ukwimbura ngo numuhero w'isi kandi bavuze umuhero w'isi numuhero wa wawundi yahabwa kuganza isi kuva cagihe gushika none umusa kitwaye aho ni hazoba ahagaritswe n'inganje yihagaritswe.
Alors, on voit bien que là on parle de moisson et on parle de fin du monde. OK, fin des systèmes de ce monde. Les moissonneurs ce sont quoi? Les anges.
Ngo igenya numuhero w'isi abagenyi n'abamarayika.
Donc c'est assez facile de comprendre entre la fin, l'Apocalypse 14, la troisième partie qu'on a lue tout à l'heure, avec l'ange et les anges et leurs faucilles, et puis cette parabole ici. On voit bien que la fin de l'Apocalypse 14, ça correspond vraiment à cette parabole de Matthieu 13. Donc, on voit qu'il y a deux types de personnes. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, et les enfants du diable, ceux qui ont refusé Jésus. Dieu envoie un signal du ciel. C'est le temps de séparer les deux. Pourquoi on va séparer les deux?
Mais
c'est très simple. Et je vais vous montrer aussi après une autre parabole qui en parle. Parce qu'on veut mettre d'un côté ceux qui sont vivants à la fin de la tribulation. Qui sont nés de nouveau et qui sont encore vivants, qui n'ont pas été tués par l'Antichrist et tous ceux qui seront dans son système. Parce que eux, ils vont rentrer dans le millénium. Et tous ceux qui n'auront jamais reçu Jésus, eux, tout ce groupe-là d'inconvertis, qui auront la marque de la bête, eux, on va les prendre et ils vont mourir. Dieu va les faire mourir. C'est pour ça que Dieu veut que ce soit clair entre les deux groupes. Ça sera clair spirituellement, mais après il faut que ce soit clair physiquement. Donc les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ivraie, vous inquiétez pas, vous allez comprendre certaines choses, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Alors, encore quelques versets, je regardais si on avait fini parce que j'ai mal à lire sous les yeux. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ok, le Fils de l'homme enverra. Donc il y aura une ordonnance divine à partir du ciel. Qui arracheront de son royaume, là où il va venir régner, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous expliquerons tout cela un petit peu plus tard. Verset 43, alors, regardez bien, alors, ça veut dire qu'il y a eu d'abord un événement qui s'est produit. Quand vous dites alors, ça veut dire il s'est passé certains événements, voici ce qui va se passer après cela. Voilà, c'est tout simplement. Donc, alors, donc une fois que les injustes, une fois que les inconvertis seront mis à mort, seront tués à ce moment-là. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakozi bizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kujyanya insya z'amenyo. Buna bagororotsi bazokwaka nk'izoba mu bwami bwa se, uri n'amatwi yo kumva niyumve.
Alors, le bon grain, bien sûr, c'est toutes ces personnes, je le répète, parce que petit à petit, on va venir à cette notion. Là, on s'approche de la fin de la tribulation. Il va y avoir des choses qui vont se produire, vous allez voir, mais je veux que vous les compreniez bien.
Imbuto nziza rero ngaha bavuga hari ibintu
Parce qu'après la fin de la tribulation, va s'enchaîner le règne de 1000 ans de Jésus à Jérusalem. Donc il va se passer plein de choses juste à la fin de la tribulation. Et la moisson en fait partie. Dieu veut séparer clairement ceux qui sont nés de nouveau, qui sont encore vivants à la fin de la tribulation, avec ceux qui auront la marque de la bête et qui seront tués à la fin de la tribulation. Parce que nous verrons que dans l'entrée dans le millénium, il y aura deux types de personnes. Ceux qui seront nés de nouveau pendant la tribulation, qui seront encore dans leur corps mortel, parce qu'ils n'auront pas été assassinés pour leur foi, mais ils ont été sauvés au niveau de leur corps. Leur corps ne sera pas mort. Et eux vont entrer avec leur corps mortel dans la tribulation. Oui, ils rentreront avec leur corps mortel dans la tribulation, c'est-à-dire tel quel. Ils seront vivants à la fin de la tribulation et ils seront dans le millénium. Excuse-moi, millénium.
Donc,
nés de nouveau, mais ils n'auront pas encore leur corps ressuscité.
Parce
qu'ils
ne
sont pas encore morts. Donc, ils vont entrer dans le millénium avec leur corps mortel. Et il y aura nous aussi.
Et
nous, on n'aura plus notre corps mortel. On sera déjà ressuscité, on aura notre corps glorifié. Je vais vous rappeler la notion de corps glorifié. Avec nos récompenses. Et la Bible nous dit que nous régnerons avec Jésus. Mais à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin des systèmes de ce monde, à la fin de la liberté du gestionnaire qui est le plus pourri de la terre, Dieu va séparer les deux groupes. Et c'est ce qu'on appelle la moisson. C'est les anges qui vont faire ça. On a ici le bon grain est livré. Alors, je ne sais pas trop comment ça a été traduit, livré. Mais livré représente donc les inconvertis. Qui seront là à la fin de la tribulation, qui auront la marque de la bête et qui doivent être éliminés de la terre, arrachés. Vous voyez, c'est arraché, on les arrache. Comme on arrache les mauvaises herbes, on les prend les mauvaises herbes et on les arrache. Et elles meurent. C'est l'image, je vous dis, que Dieu donne pour, il va faire mourir les inconvertis à la fin de la tribulation. On en reparlera juste par la suite. L'ivraie est une mauvaise herbe, donc c'est une mauvaise herbe qui pousse souvent avec des bonnes plantes, à côté des bonnes plantes. Mais en faisant quelques recherches, il est parlé d'une ivraie dont certainement Jésus parlait, ce qu'on appelle l'ivraie enivrante, celle qui rend, quand on en mange trop, on a l'impression d'avoir bu quelque chose. Et en fait, c'est étonnant parce que l'expression qui est utilisée ici, c'est vraiment un type d'ivraie, donc un type de mauvaise herbe, qui a cette intonation, enfin cette connotation, cette définition ivraie enivrante, c'est-à-dire qui rend un peu ivre les gens quand on en mange trop. Entre guillemets, sorte de drogue. Sauf qu'il fait un effet comparable un peu à l'alcool. Vous êtes très silencieux, j'essaie de vous expliquer quelque chose ici. Et en fait, ils disent que ce genre de plante ici, dont il est décrit dans ce texte, c'était typique. Les gens, il y avait des gens qui consommaient ça avec une certaine dose. Et ils ressemblaient à des gens qui avaient bu de l'alcool, beaucoup d'alcool, et qui étaient complètement ivres. Donc ça avait des effets comparables à l'ivraie.
urumva rero
pardon l'ivresse l'ivresse
ugasanga bameze rero nk'abantu basomye.
Évidemment, c'est un peu le je dirais l'image de l'inconverti.
Nico gicapo cy'umupagane.
Vous savez, un inconverti, c'est pas quelqu'un qui est sobre spirituellement.
Buri umupagane so umuntu mu buryo bw'impwemu afise ubwenge bukwiye.
S'il était sobre spirituellement parlant, un inconverti, directement il se repentirait et accepterait Jésus. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, par exemple, on a vu ça plus d'une fois ici d'ailleurs.
Hein,
quand il y a des fêtes, style jour de l'an, Noël,
vous
vous réveillez le matin dans les rues désertes de Bujumbura et d'un seul coup vous voyez un trou dans le mur de l'école française.
Vous
rappelez cette histoire, non? Moi je me souviens un jour, j'ai descendu, c'était le 1er janvier, j'ai descendu tôt en ville, j'ai vu un trou dans le mur de l'école française. Je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un a pu rentrer? C'était pas un cambriolage, c'était une voiture. Le type était rentré, vous voyez, dans une route bien droite, Luprona, dans la route, dans l'avenue de Luprona, bien droite, où on ne peut pas avoir l'accident. Et il était rentré dans le mur de l'école française et il avait fait un immense trou. La voiture était dedans encore. Il y avait la moitié de la voiture d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté du mur. Est-ce que quelqu'un de sobre, quelqu'un de normal peut faire ça?
Non.
Non, parce qu'il a conscience du danger. Et vous savez, les inconvertis n'ont même pas conscience du danger par rapport à l'éternité qui court. Vous avez remarqué, des fois on parle des inconvertis. Et par exemple, on sait qu'ils sont en danger, par exemple, ils sont très malades. Et tu vas leur dire, mais repens-toi, si demain tu meurs de cette maladie, tu vas aller en enfer.
Et
il est là, il dit, toi, parce que tu sais ce que c'est, t'as la vie éternelle. Mais lui, il est comme enivré par quelque chose, bien sûr, par le diable.
Vous
voyez, il y a vraiment cette image ici, dans ce type d'ivré dont il est parlé, l'expression qui a été traduite par ivré. C'est quelque chose qu'on, quand on consommait un peu trop, c'était un peu comme les effets de l'alcool, en quelque sorte. Alors, il y a une autre parabole que Jésus va donner dans Matthieu 25. Tiens, Matthieu 25, juste après Matthieu 24. Eh oui, parce que nous découvrirons que Jésus va donner des paraboles dans Matthieu 25 qui vont parler de la fin du monde. Regardons ensemble Matthieu 25. À partir du verset 31, on va retrouver cette même idée avec, je dirais, une autre image, mais c'est la même idée.
Et
là, on va avoir un peu plus de précision sur la fin du monde. Petit à petit, vous allez découvrir comment va se produire la fin du monde. Il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, tiens, viendra dans sa gloire. Oui, nous allons découvrir que la fin du monde va se produire au deuxième retour de Jésus. Le premier retour, c'est ce qui va être le déclencheur de la tribulation. C'est l'enlèvement de l'Église. Mais entre le premier et le deuxième retour de Jésus, il y a 7 ans, et c'est la tribulation. Et là, nous y sommes presque dans notre étude. Et la Bible va être très claire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et on va voir, nous étudierons quand Jésus va revenir, au moment même où Jésus va revenir, il va se passer plein d'événements. pour la deuxième fois, donc son deuxième retour, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. La première fois, il ne va pas revenir, il va venir chercher son église, mais il ne va pas venir avec tous ses anges. La deuxième fois, il viendra avec tous ses anges et il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Verset 32, il est dit, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Vous voyez, dans l'autre parabole, c'était quoi ? C'était le bon grain de l'ivraie. Vous voyez, il y a une séparation claire. Verset 33. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume. » Ça, ça va être l'entrée dans le millénium, nous allons voir. « qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, etc. etc. » On a parlé un petit peu de ça la semaine dernière. Mais ici, c'est justement la description de ce qui va se passer à la fin du monde. Ça ressemble fortement à ce que nous avons lu dans Matthieu 13 tout à l'heure, avec l'ivraie et le bon grain.
Ugiye kusoma rero hano aho bavuga ku ntama n'impene nge nazo zirobanura birasa cyane na hamwe twasomye urubuto gwiza no gwamfu icyumvira urabona ko ari kimwe.
Donc on voit à chaque fois qu'à la fin du monde, à la fin des systèmes de ce monde,
ugo mubona rero ko kumpera y'isi no kuvuga ngo kumpera y'inge n'isibayeho itwawe ikoze.
Il y a une séparation claire.
Hariho ugutandukana kuzo.
Jésus va revenir.
Yes, azogaruka.
Ces anges auront des instructions qui nous sont décrites dans Apocalypse 14, la fin du passage, là, qu'on a vu, pour séparer ceux qui sont vivants à la fin de la tribulation. Et à la fin de la tribulation, il y a les deux groupes encore. Les gens qui sont sauvés et qui ont réussi à ne pas être mis à mort malgré toutes les persécutions. Et eux, ils sont considérés comme les brebis. Ils sont considérés aussi comme le bon grain. Et ils vont entrer dans le millénium avec leur corps mortel.
Et
Dieu va empêcher qui que ce soit qui n'est pas sauvé de pouvoir entrer dans le millénium. Revenons à Apocalypse chapitre 14. On va lire le verset 15 et le verset 16. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Donc vous avez compris que la moisson, c'est on sépare les deux, c'est ça que ça veut dire. L'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis, verset 16, sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Donc c'est les hommes, je vous le rappelle, ceux qui sont vivants à la fin de la tribulation. Un converti d'un côté et ceux qui sont sauvés de l'autre. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, il avait aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu sortit de l'autel. Regardez bien verset 18. Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille, tranche et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. » Et la cuve fut foulée hors de la ville, du sang sorti de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ça représente à peu près 300 kilomètres, imaginez-vous, sur une grande hauteur. En fait, qu'est-ce que Jean voit ici ? Jean va voir la finalité des inconvertis sur la terre.
Aha rero Yohana mbega ariko abone iki kuva kuri 15 gushika kuri 20 abona impera y'abapagani ku isi.
Là ça montre que ces inconvertis vont être mis à mort par Dieu à la fin de la tribulation.
Byerekana ko Imana ku mpera y'igihe cy'ihamwa izokwica igakuraho abapagani.
Parce que je vous rappelle que dans l'entrée dans le millénium,
il n'y aura que
des personnes qui seront nés de nouveau, qui auront servi Dieu. Nous, ressuscités et avec un corps glorifié, et ceux qui se seront convertis pendant la tribulation, mais qui ne seront pas morts physiquement, qui auront réussi à tenir jusqu'à la fin de la tribulation sans être tués,
Et
ils rentreront dans le millénium aussi.
On verra que ce
serait très différent, la façon dont chacun pourra régner à ce moment-là.
Nous allons
en reparler. Mais là, on voit que Dieu va éliminer tous ceux qui ne sont pas convertis, parce qu'il est parlé de la cuve de la fureur de Dieu, de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est sur qui ? Sur les inconvertis. La colère de Dieu n'est pas sur ceux qui sont sauvés. L'amour de Dieu est sur ceux qui sont sauvés et dans ceux qui sont sauvés.
Mais
en aucun cas, la colère de Dieu est réservée pour ceux qui sont sauvés. Ça, jamais vous verrez ça dans la Bible. Alors là, dans le chapitre 14, on voit clairement les 144 000 qui vont servir, les Juifs qui vont servir Dieu.
Être
exemplaires. Ensuite, Dieu qui donne les derniers avertissements avant les derniers jugements. Rappelez-vous, nous sommes dans le septième sceau. Et nous en sommes au début de la septième trompette. Et la septième trompette va amener cette coupe finale de la colère de Dieu. Entre temps, Dieu donne dans sa parole et montre à Jean la finalité.
Vous
voyez, souvent ce qui se passe dans l'Apocalypse, c'est que vous avez un chapitre qui vous montre un certain nombre d'événements en général. Et le ou les chapitres d'après vont vous montrer comment ces événements vont se produire. Là, c'est tout à fait typique du chapitre 14. Le chapitre 14 annonce un certain nombre de choses à partir du ciel. Et le chapitre 15 va justement nous montrer comment sur la terre eh bien, ces jugements vont être exécutés. Regardons ensemble. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand vous lisez l'Apocalypse. On voit le chapitre 14 qui nous explique un certain nombre de choses qui vont se produire. Mais comment ça va se produire ? Eh bien, c'est le chapitre 15 qui va nous le montrer. Ça va être la finalité de la colère de Dieu. Et ça va être les sept coupes de la colère de Dieu.
Donc,
rappelez-vous, chapitre 5, on parle d'un livre avec sept
sceaux.
Sceaux des jugements de Dieu. Ça se produit les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et septième
sceau.
Là, il va y avoir sept trompettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6e trompette. Et 7e trompette qui sonne. Là, il va y avoir les 7 coupes de la colère de Dieu.
Oui,
ça nous montre une accélération des jugements de Dieu, je vous rappelle. Dieu va frapper de plus en plus fort et de plus en plus vite. Plus vous avancez dans la tribulation, plus Dieu frappe fort et dit aux hommes, repentez-vous, il y a encore une chance, il y a encore une chance. Et entre temps, le diable essaye de rassembler ses forces.
Et
essaye de mettre un tel désordre sur la terre. Essaye de forcer le contrôle de chaque être humain. Politiquement, économiquement, socialement, partout, il essaye de récupérer. Pour essayer d'emmener le plus de gens à prendre la marque, c'est-à-dire à l'adorer. Et Dieu veut vraiment que les gens se prononcent. Pour lui ou contre lui. Chapitre 15. Voilà exactement le comment ce qui est décrit dans le chapitre 14 va s'accomplir.
Lui,
je vis dans le ciel. Verset 1. Un autre signe, vous voyez, Jean, il dit puis, donc il a, hop, il a une autre vision. Vous voyez, il rentre dans des visions successives, je vous le rappelle. Il parle d'un autre signe grand et admirable.
Vous
savez, je ne sais pas comment Jean est sorti de cette vision, la vision de l'Apocalypse.
Les
jours d'après, il devait être sérieusement retourné.
Parce
qu'il a vu des choses absolument phénoménales. Quand vous lisez déjà le prophète Daniel qui va recevoir petit à petit des révélations.
Mais
lui, il n'était pas né de nouveau. Jean, il voit des choses. Il a une révélation qui a l'air d'être une seule grande vision, entre guillemets, qui a été faite de succession de petites visions.
De grandes visions petites.
Et là, il dit, je vois quelque chose de grand et admirable, un autre signe.
Sept
anges qui tenaient sept fléaux, les derniers. Et regardez bien, c'est pas, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le mot fléau, c'est des coups, des châtiments, des plaies. Et quand il est parlé que c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Vous voyez le verbe s'accomplir ici. Ça veut vraiment dire la chose suivante. Quelque chose, un événement qui se termine, c'est-à-dire un événement qui touche à sa fin. Vous voyez, là vraiment, la Bible insiste sur la fin de la fin de la tribulation. C'est cette coupe de la colère de Dieu, c'est ce qui va mettre le point final total à la gestion de l'ennemi sur la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir qu'à l'issue de ces sept coupes de la colère de Dieu, le diable, il va y avoir ce qu'on appelle après la bataille d'Armageddon qui va se produire. Nous expliquerons ce que c'est. Nous verrons que juste cette bataille, à la fin, Jésus va venir. Son deuxième retour. Avec nous, parce que nous serons là. Et c'est là où l'Antichrist sera mis hors d'état de nuire.
Que
toutes les armées qui seront contre Israël vont être détruites. Et là, Jésus va venir reprendre sa propriété. C'est à l'issue de ces sept coupes de la colère de Dieu. Donc c'est la finalité de la finalité. C'est incroyable de voir combien ces événements sont décrits avec précision. Et comment vraiment Dieu va faire pour récupérer la gestion de sa propriété. Alors, au chapitre 15, la Bible va nous parler, enfin, Jean va voir un certain nombre de choses du côté de Dieu encore. Et versets 2 à 4, on va lire ça ensemble, il est dit, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu, regardez bien, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Verset 3, « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Que qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ce sont des personnes ici qui vont témoigner que les jugements de Dieu ont été manifestés. Alors, ce sont des gens qui sont sortis vainqueurs de la tribulation. Donc ce sont ceux qui se seront convertis dans la tribulation, qui auront refusé de prendre la marque de la bête, qui seront de toute nation, et qui auront été prêts, ou qui ont été prêts, à mourir pour le Seigneur. Donc des personnes qui savaient que du jour au lendemain, à n'importe quel moment de leur vie pendant ce temps-là, quelqu'un pouvait les prendre et les mettre entre guillemets sous l'empire de l'Antichrist, du gouvernement mondial de l'Antichrist, avoir en toute légalité pouvoir les assassiner. Donc des gens qui étaient 100% engagés, sans compromis avec le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils vont chanter le cantique de Moïse. Alors là, le cantique de Moïse, nous allons le retrouver dans, Exode chapitre 15. Et c'est très intéressant de voir comment la Bible va faire un parallèle avec ce cantique de Moïse et l'Apocalypse. Là, le cantique de Moïse, ça a été écrit, donc évidemment par Moïse, dans un temps particulier, qui est vraiment une image, justement, de la fin du monde. C'est quoi cette image? Quand vous lisez le cantique de Moïse, on
ne
va pas le lire complètement parce qu'il faut lire tout ce chapitre.
Mais
en fait, c'est Moïse qui va, enfin une bonne partie du chapitre, c'est Moïse qui va louer le Seigneur après avoir vu Dieu faire quelque chose. Moïse, ce serviteur que Dieu a choisi, qui va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais le cantique de Moïse au chapitre 15, Moïse loue le Seigneur avec les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Alors qu'ils étaient, partis dans le désert en obéissant à Dieu, et qu'ils se sont retrouvés entre deux fronts. D'un côté, il y avait la mer à traverser, la mer rouge, ce qui leur paraissait impossible. Et derrière eux, il y avait l'armée la plus puissante du monde de l'époque, l'armée d'Égypte, où Pharaon s'était réveillé, entre guillemets, après avoir vu le peuple d'Israël partir. Et il a dit à ces gens, mais on va les rattraper, ces gens-là. On va les manger en brochette. Et ils ont ramené toute l'armée d'Égypte qui sont partis à la poursuite du peuple d'Israël. Et Dieu va ouvrir la mer rouge, nous connaissons tous ces passages. Et les Israélites devaient certainement passer la mer rouge et les derniers devaient regarder derrière eux. Parce que Dieu va ouvrir la mer. Mais les Israélites sont passés. Ils étaient en train de passer et ils entendaient de très loin cette armée les poursuivre. Et ils se sont dit, c'est bien, on va mourir de l'autre côté de la mer rouge. Si
ce
n'était pas d'un côté, on allait mourir de l'autre. Et Dieu va faire ce miracle devant leurs yeux. Sous l'ordre de Moïse, la mer va se refermer. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient être détruits, qu'ils allaient être tués. Et au dernier moment, Dieu va refermer la mer sous leurs yeux. Ils vont voir de leurs yeux la délivrance du Seigneur à la dernière minute, au dernier moment, alors qu'ils avaient obéi à Dieu, mais que d'un seul coup, le danger de la mort était là. C'est vraiment une image pour la fin de la tribulation. Les gens vont être complètement désespérés, même les chrétiens. Jésus dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Rappelez-vous de ça. Jésus le dit bien. Ce que Jésus a prophétisé, ça va se passer. Ça va se passer. Effectivement. Ces gens-là vont être témoins. Exactement. Du même type de délivrance. Au dernier moment. Alors que là, ils seront prêts à tous mourir. Tous les chrétiens sont prêts à mourir. Dieu va venir faire éclater sa gloire.
Il
les délivrer surnaturellement. Jésus reviendra au temps opportun. Avec ses saints, c'est-à-dire avec vous et moi. Et ils seront délivrés. Ces gens-là seront délivrés. Ces saints qui habiteront, eux, la terre pour l'instant. Et ils vont être délivrés surnaturellement.
Et
c'est vraiment... c'est tout à fait semblable à ce que le peuple d'Israël a vécu au moment où ils ont été délivrés. Dieu a noyé l'armée et a anéanti l'armée la plus puissante du monde. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuerons la semaine prochaine sur ce sujet.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.